Ça va essayer de reprendre le mystère de Gethsémani. On vient d'entendre dans l'Écriture, dans l'Évangile d'aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Pour quelconque chose que tu fais, la moindre pensée. C'est une belle introduction au mystère de Gethsémani, ça. Parce que le premier mystère douloureux, sûrement un des mystères les plus difficiles à comprendre, puisque même le démon n'a pas réussi à comprendre. Et le démon, c'est l'intelligence extrêmement affinée. Et on va essayer de demander au bon Dieu, à l'Esprit Saint, vraiment nous, de nous faire rentrer dans le mystère de Gethsémani, le mystère de l'agonie de Jésus. Qui est évidemment très très difficile, hein, très difficile. C'est très très difficile de rentrer dans un mystère comme celui-là parce que il touche à des domaines inaccessibles, même par la grâce, à des domaines inaccessibles parce qu'ils ne peuvent toucher en Jésus que ce qui appartient en lui à Dieu seul. Alors, c'est très difficile comment Jésus s'est incarné et là, le Père, le Fils, le Dieu vivant et éternellement vivant, le Créateur, l'Esprit Saint, se sont, pour ainsi dire, concentrés sur la souffrance de Jésus. Concentré sur un arrachement de Jésus, pour arracher Jésus à lui-même quelque part. Et pour comprendre, il y a une remarque de saint Augustin qui me vient à l'esprit juste maintenant et qui compare le degré d'unité qu'il y a entre les personnes de la très sainte Trinité et le degré d'unité par comparaison qu'il y a entre Jésus, entre le Christ et la divinité de sa personne. Il y a entre la nature humaine de Jésus et la nature divine de Jésus, il y a une unité tellement grande que ça fait qu'une seule personne. Il y a une unité très très forte entre Dieu vivant, le Créateur vivant, le pain vivant, et d'avant la création du monde, et Jésus. Et Jésus vivant, il y a une unité très forte. On appelle ça l'union hypostatique. Mais cette unité, c'est une unité d'amour. Et c'est une unité qui va très très loin, puisque elle touche même la substance éternelle de Dieu, du point de vue de l'unité. Alors saint Augustin, il fait la comparaison entre l'unité qu'il y a entre les trois personnes de la très sainte Trinité. On ne peut pas dire que les trois personnes de la très sainte Trinité ne soient pas très une. Hein. Elles sont une, puisqu'elles constituent vraiment un seul Dieu. L'amour est si fort entre les personnes de la très sainte Trinité, l'unité est si vivante qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On pourrait dire vraiment, tu ne peux pas faire une unité plus forte qu'entre les personnes de la très sainte Trinité, puis ça fait un seul Dieu. Trois en un. Un en trois. Et en plus, c'est de l'amour à l'état absolu qui fait cette unité. Saint-Augustin, il n'hésite pas à dire, que l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union qu'il y a entre le sang, la chair, l'affectivité, le cœur, enfin, tous les besoins humains de Jésus, d'amour, de tendresse, de communion, de vérité, de vie contemplative, de liberté. Et puis, sa divinité, il est le Dieu vivant et vrai, le Fils unique de Dieu le Père. Cette unité-là est plus forte que l'unité qui a entre les personnes de la très sainte Trinité. Pourquoi ? Parce que l'unité qu'il y a entre Jésus et Dieu, le Fils, et lui comme Dieu et lui comme homme, elle est si forte qu'elle anéantit la personne dans l'homme. Parce que dans la très sainte Trinité, la communion des personnes n'est pas si forte qu'elle anéantit une hypostase de personnes. Les trois personnes restent des personnes. Tandis que c'est vrai que en Jésus, il n'y a pas deux personnes. Une personne humaine et une personne divine. Il n'y a qu'une seule personne. Fallait y penser. Hein. Fallait y penser. Donc là, ça veut dire que l'union est si forte entre Jésus et le Dieu vivant qu'il est lui-même, que ça dépasse en unité l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils, entre le Père et l'Esprit-Saint, entre le Fils et l'Esprit-Saint, entre l'Esprit-Saint et l'unité du Père et du Fils. Cette unité très forte, et cette unité, Jésus veut là, cette unité va être la porte de l'union de toute la nature humaine, la nôtre, avec la communion des personnes de la très sainte Trinité. Parce que si je veux être le médiateur de cette unité si forte avec ce qui se passe dans la très sainte Trinité, entre le Père et le Verbe et le Fils, entre l'Esprit Saint et le Père, rendez compte comme le Père est englouti dans l'amour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est complètement anéanti dans celui dont il procède. Il n'a plus rien à dire, tellement il est établi en lui, dans l'unité, dans l'amour, dans l'extase, dans le ravissement, dans la disparition même, on peut dire, dans l'unité. Et cette unité-là, c'est cette unité-là, divine, absolue, personnelle, que Jésus veut communiquer à tous les membres de la nature humaine. Pour ça, il faut qu'ils vivent donc d'une unité plus forte encore. Et c'est ça, le mystère de Gethsémani, quelque part. Parce que il faut qu'il y ait quelque chose qui soit brisé en Jésus. Dans le mystère de l'union hypostatique, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit pour qu'il y ait une attraction et une irrésistible communication de l'unité de l'amour. C'est pour ça que c'est pas si facile que ça de comprendre le mystère Gethsémani. Hein. Souvent les gens disent, bah, écoutez, voilà, c'est facile, Gethsémani, bah oui, Jésus, il a été confronté à la mort, donc il dit... être confronté à la mort, lui, il était quand même avec la science infuse, il était avec... Quelquefois, nous, on meurt, mais on est inconscient, on ne se rend même pas compte ce que ça représente, la mort, tandis que lui, il savait ce que c'était que la mort. Donc, face à ça, il était saisi d'une angoisse, d'une peur. C'est pas vrai. C'est pas vrai de dire ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, comme si... Si Jésus pouvait avoir peur de souffrir, Jésus n'a pas peur de souffrir, il s'est incarné justement précisément pour pouvoir jouir d'un amour qui assume que la mort d'amour puisse s'incarner en lui. Et que l'amour qui va jusqu'à l'épuisement de lui-même, c'est-à-dire qu'il soit lui-même amour, il vive d'une manière incarnée. Dans l'appel qu'il a reçu de la lumière surnaturelle de la foi, qui s'est introduite en lui, en Marie, dans la très sainte Trinité. Il a voulu vivre ça. ça a été justement une très grande. Il l'a fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude pour Marie de pouvoir vivre ça. Il a créé le monde pour que cet amour-là soit absolu et parfait. Alors, il y en a qui disent, mais oui, mais il a été confronté, Jésus, à toutes sortes d'angoisses parce que dans sa science infuse, sa science de vision, tout ça, et le démon, il ne s'est pas privé de venir lui montrer tous les péchés du monde, de tous les temps et de tous les lieux. Alors Jésus, il n'a pas supporté. Attends, est-ce qu'il avait besoin du démon pour voir ça? Est-ce que jusque-là, toutes ces choses-là s'étaient voilées à ses yeux? Tota vita Christi, crux fuit, atque martyrium, toute la vie du Christ, Saint Bernard, c'était la croix et le martyre, une agonie continuelle. Et donc c'est sûrement pas ça non plus. C'est bien de prendre le mystère, on devrait faire comme ça tous les mystères, tout ce que ça n'est pas, quoi. Alors oui, mais alors, voilà... Oui. Ah ben peut-être que Jésus, il s'est dit, mais quand même, je vais être affronté à la justice de Dieu. Puisque j'ai pris cher, je l'ai pris avec tout l'amour de l'unité de mon âme d'amour divin dans la chair, dans le sang et dans toute l'humanité. Du coup, j'habite tous les hommes. J'habite. Automatiquement, l'unité entre l'humanité et la divinité est plus forte grâce à Jésus que l'unité qu'il y a entre les trois personnes de la très sainte Trinité. Vous vous rendez compte de ça? Puisqu'elle touche l'hypostase. C'est la très sainte Trinité, l'hypostase n'est pas touchée. Il reste toujours trois hypostases. Il y a toujours ce face-à-face. Tandis que là, il y a une unité de vie, et une unité de nature, et une unité d'amour, et une unité de communauté, une unité de corps, on peut dire. Il vient d'instituer l'Eucharistie pour ça. Alors on va dire, mais voilà... Ah, mais cette fois-ci, c'est pas seulement ma souffrance sur la croix, etc. C'est toutes les souffrances du monde que je vais accepter de vivre dans ma propre chair. Ah, on commence à se rapprocher déjà, bien sûr. Dis, oula, ça, quelle frayeur. Pourquoi pas ma frayeur à moi, mais la frayeur de tous ces hommes dans cet état de souffrance. Est typiquement anormale parce qu'elle est inventée par Lucifer. Et Lucifer est un abîme de cruauté. Et donc les hommes, eux, ne sont pas capables de subir autant de mal dans leur chair avec une cruauté aussi qui dépasse même leur entendement. Et puis regarder Dieu en face avec gratitude, ils ne peuvent pas faire ça. Alors du coup, ils sont dans un état d'angoisse. Et justement, Jésus va récupérer toutes ces angoisses. Il va les ressentir, les éprouver toutes ensemble. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de vrai là. Il y a quelque chose de vrai. Pourtant, ça ne me satisfait pas encore complètement. Et... je sais bien que bon, il y a toutes ces choses-là sont présentes, mais on va revenir toujours, comme c'est agréable d'avoir un pape, n'est-ce pas? Parce que lui, il nous dit un certain nombre de choses. Donc, mystère douloureux, qu'est-ce qu'il nous dit? Les évangiles donnent une grande importance au mystère douloureux du Christ. Donc, Ce qu'on constate, c'est que dans l'exposé que le Saint-Père propose pour les mystères du rosaire vivant, là où il s'attarde le plus, sans aucune comparaison de tous les 20 mystères, c'est Gethsémani. C'est là où il donne le plus de mots, le plus d'explications. Depuis toujours, la piété, c'est-à-dire l'amour des fils de Dieu vis-à-vis de Dieu le Père, la piété chrétienne, spécialement pendant le carême, à travers la pratique du chemin de croix, s'est arrêtée sur chaque moment de la passion, comprenant que là se trouve le point culminant de la révélation de l'amour. Et que là aussi se trouve la source de notre salut. Le parcours que le rosaire choisit en certains moments de la passion incite les personnes qui prient à les fixer avec le regard du cœur. Alors ça, c'est une expression que je n'ai jamais vue. Et on ne la voit qu'ici. On est invité par le rosaire vivant à fixer avec le regard du cœur. Et à revivre ce mystère de Gethsémani. Il faut donc le fixer avec le regard du cœur. C'est un mystère de souffrance qui est incompréhensible à l'intelligence, même éclairée par la lumière de la foi. Donc il faut le fixer, ce mystère avec le regard du cœur, et le vivre. Vivre ce que Jésus a vécu. Vivre ce que l'Immaculé a vécu. Dans l'instant de l'agonie de Jésus. C'est une très grande travail. Hein? C'est une très grande acte de sainteté chrétienne que de fixer les yeux, les regards de son cœur sur Jésus pour vivre, le comprendre donc, et le vivre avec lui, vivre avec Marie. Donc ce parcours s'ouvre sur Gethsémani, où le Christ vit un moment particulièrement angoissant. Vous savez que l'angoisse, c'est une peur panique qui vient de ce qu'on ne comprend pas. D'où vient la peur? Ce qui est étonnant, Jésus aurait eu quelque chose qui relève d'une angoisse panique. Qui vient de ce qui n'a pas la lumière sur l'origine de cette peur. Parce que quand tu sais pourquoi tu as peur, ce n'est plus une angoisse, c'est une peur. Tandis que quand tu sais pas d'où vient cette peur, ça fait l'angoisse. Il y a quelque chose donc qui échappe à Jésus. Et il vit un moment particulièrement angoissant, confronté à la volonté du Père, face à laquelle la faiblesse de la chair humaine est tentée de se rebeller. Et donc il y a une rébellion, et il ne voit pas d'où vient cette rébellion, dans lui. Contre le Père. Qu'il voit. Ça veut dire que, on va y revenir, ça veut dire que la tentation qui s'inscrit en lui à Gethsémani pénètre jusque dans sa relation éternelle de fils de Dieu vivant dans le sein de Dieu le Père. Ça pénètre jusque dans la procession éternelle d'avant la création du monde. Permission divine. On voit tout de suite, immédiatement en disant ça, ah, que Gethsémani est un mystère de Marie. Puisque la seule créature qui ait pu pénétrer à l'intérieur de la procession éternelle d'avant la création du monde, par la foi, l'engendrement du Père vis-à-vis du Verbe, et dans le sein de Dieu le Père, pour contempler le Verbe, l'assimiler, le produire en la chair, c'est Marie. Donc quelque part, un chemin a été tracé pour atteindre en Jésus ce qu'il y a de plus fragile. Et ce chemin, ça a été Marie. Le démon a donc pu pénétrer. Et c'est là la tentation. C'est là où c'est incompréhensible pour la nature humaine de Jésus. Et c'est là où l'angoisse est née. Mais peut-être, vous voyez, c'est des axes hein, qu'il faut donner. L'Esprit Saint, peut-être s'y va. Mais le pape, en tout cas, il dit, à ce moment-là, le Christ tient dans le lieu de toutes les tentations de l'humanité et face à tous les péchés de l'humanité pour dire au Père que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Son oui, son chemin, me voici, efface le nom de nos premiers parents du jardin d'Éden, d'Adam et Ève. Donc il va vraiment jusqu'à la racine de l'humanité en Dieu. Et la racine de l'humanité en Dieu, il faut aller, faut pousser jusqu'au bout, ce que dit le pape, la racine de l'humanité en Dieu, la racine de tous les hommes, la mère des vivants, c'est Marie. Et là, ici, il a fallu que Jésus efface le nom de la racine de toute l'humanité en Dieu. Alors, il faut bien reconnaître que ici, nous avons un deuxième axe de contemplation du mystère Gethsémani qui est facile à comprendre, parce que la racine de notre union de toute l'humanité en Dieu, c'est dans l'acte créateur de Dieu, dans la grâce originelle, dans la mémoire de Dieu. Cette fameuse mémoire de Dieu dans laquelle Jésus s'est inscrit dans l'incarnation et pour laquelle il a établi l'Eucharistie en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de ce qui est mien. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre l'Eucharistie et Gethsémani. C'est immédiat. Eucharistie, Gethsémani. Et on va essayer de voir ça. Enfin, on va essayer d'ouvrir, soulever quelques voiles là-dessus. Et ce qu'il doit lui en coûter d'adhérer à la volonté du Père apparaît dans les mystères suivants, que sont les autres mystères douloureux. Les autres mystères douloureux, Saint-Père s'attarde pas. C'est vraiment... Parce que les autres mystères douloureux, vous savez, bon, bah, on le verra, hein, si Dieu nous prête vie, quoi. Mais sinon, Gethsémani, c'est extraordinaire. Donc Jésus vient de célébrer avec la gratitude absolue de toute la puissance divine et éternelle de son amour. Il vient d'instituer le signe éternel de sa gratitude, l'Eucharistie. Sa gratitude vis-à-vis de l'humanité qui a dit oui. L'humanité qui a dit oui, c'est Marie. Et c'est sûr que c'est Marie. Et c'est tous ceux qui, avec Marie, avec la grâce chrétienne de Marie, avec la foi mariale, avec la foi divine, quoi, avec la foi lumineuse, immaculée, infaillible, disent oui. Alors là, il y a une gratitude de Jésus qui est très très forte, une reconnaissance. Et c'est avec la force, la puissance de cette gratitude qu'il va affronter, sa Pâque, qu'il va affronter cette grande tentation. La première chose qu'il faut faire quand on médite les mystères, c'est bien sûr regarder ce que dit le pape pour l'annonce du mystère. Deuxièmement, ensuite, il faut regarder la Sainte Écriture et regarder comment Saint-Esprit a voulu que ce soit révélé, quoi, avec les mots qui sont justes, avec les paroles justes et avec l'Esprit Saint juste portant tous ces mots à notre de manière qu'ils produise en nous ce qu'il signifie. Et alors, on voit bien donc que Gethsémani, c'est Jésus a donné la communion, et c'est une chose qui est très frappante, c'est que il a donné l'institué l'Eucharistie pour les apôtres. C'est très frappant. Et les disciples. Ça, c'est très frappant, parce que vous verrez, comme moi, je suppose, que c'est marqué nulle part que Jésus donne l'Eucharistie à Marie. À Marie-Madeleine. À Marie-Salomé. C'est marqué nulle part. Mais il dit à ses apôtres, prenez et mangez-en tous et faites ceci en mémorial de ce qui est mien. Et c'est à ses apôtres, il institue ses apôtres comme source de ce signe de gratitude. Et il y a certaines traditions, sans parler de l'écriture, il y a certaines traditions qui n'hésitent pas à dire que la première fois que Marie a communié, c'était après la Pentecôte. Donc avec l'Eucharistie, il y a eu tout de suite une distance énorme qui s'est établie entre Jésus et Marie. Entre eux deux, il y avait les apôtres à qui il donnait pouvoir sacerdotal de médiation alors qu'ils n'avaient pas encore la foi. Puisqu'il est dit dans l'évangile de saint Jean, ils n'avaient pas la foi, ils ne croyaient pas encore cru. Quand il tombe, il vit et il crut quand il arrive au tombeau, hein, il vit et il crut. Parce qu'il ne croyait pas encore, parce que l'Esprit Saint n'avait pas encore été envoyé. Donc les apôtres étaient établis comme médiateurs sacramentels du sacrement de gratitude. Hein. Vraiment incroyable, quoi. Destinée, la seule personne qui pouvait le recevoir, c'était l'Immaculée, et c'était eux. Et quelque part, c'est peut-être à cause de ça qu'elle n'a pas reçu la communion. Et c'est aussi à cause de ça, sans doute, que Judas a communié. Alors, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que Satan rentra, le démon rentra en Judas. Et ça, c'est impressionnant, ça. Parce que si le démon est entré en Judas, ça m'impressionne beaucoup ça. À ce moment-là, le démon a pu comprendre. Ça y est, le démon a compris grâce à l'Eucharistie ce que c'était, qui était Jésus. Pendant les 40 jours de tentation au désert après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, Jésus a été confronté et livré à Satan. Propulsé par l'Esprit Saint dans le désert, livré à Satan pour la tentation. Et puis, très bien, on ne sent pas Jésus angoissé. On sent Jésus victime, mais pas angoissé. Il a les paroles justes. Et du coup, le démon, il est dit, chapitre 4 de l'évangile de Saint-Luc, se retira pour arriver à l'heure de la grande confrontation, à l'heure au Kairos, à l'heure, à son heure à lui. Son heure à lui, c'est Gethsémani. Et pourquoi? Parce que au moment du baptême, le démon ne savait pas qui était l'Immaculée Conception. Il ne savait pas. Il se doutait, bien sûr, que Jésus était le Messie. Ça, il le savait. Ça, c'est sûr. Il savait que Jésus était le Messie. Il savait que la conception de Jésus était virginale. Ça, il le savait. Il n'était pas si bête. Il connaissait quand même le prophète Isaïe. Hein. Bon, il n'y avait pas de problème pour ça. Il savait que la conception était virginale. Ça, je crois qu'il le savait. Mais il ne savait pas que Jésus était Dieu. Il ne connaissait pas le mystère de cette unité si forte qu'il y avait entre la nature humaine de Jésus. Il pensait que la nature humaine de Jésus subsistait dans l'hypostase du Messie, à partir de quoi tout le monde avait été créé. Mais il ne pensait pas il subsistait dans l'hypostase de Dieu créateur lui-même. Donc il ne connaissait pas non plus le mystère de l'Immaculée Conception. Et ce sont deux choses auxquelles il n'avait pas accès. Il ne connaissait pas non plus, du coup, ce pouvoir étonnant que le Christ avait de pouvoir établir en son propre corps le corps de tous ses élus par la subsistance, l'Eucharistie. Mais là, à partir du moment où Judas a communié et qu'il a décidé de livrer le Dieu vivant à la tourmente, je parle de Judas, parce que c'est ce que dit le texte de la Bible, il décida de le livrer. Et le mot grec, ça veut dire livrer à la tourmente. C'est Judas qui a décidé de livrer Jésus à la tourmente. À ce moment-là, le démon est rentré en lui. Et le démon, en rentrant en lui, a saisi ce que c'était que l'Eucharistie. Et donc, il a compris que Jésus était Dieu. Alors, du coup, la tentation a été à la mesure de la puissance d'amour de Dieu dans le Christ. Et la nature humaine a dû subir une tentation et une tourmente qui dépassait de très, 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 très loin toutes les puissances, toutes les forces d'amour surnaturel de la grâce capitale du Christ et du Messie, en qui pourtant sont tous les pouvoirs de la création du monde, puisque c'est en lui que tout a été créé, dans le Messie, dans le principe. Et voilà pourquoi l'angoisse est là. Parce que ça se dépasse tout. Et le démon, le démon a pu saisir qui était Jésus. Alors du coup, la tentation, la tempérasmos, a été à la mesure. Vous savez, on est tous tentés à la mesure de nos forces. On se dit souvent, les humains, Jésus, Marie, t'es Dieu, après tout, hein, Jésus était Dieu, hein, de tentation, hein. La puissance de l'enfer ne peut pas prévaloir contre Jésus. Donc, c'était gagné d'avance. Attention. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. La tentation est à la mesure des forces de chacun. Donc, il a été mesuré à l'aune de la puissance de son état. Ça donne la mesure justement de la souffrance, de la détresse, de l'amour qu'il a dû y avoir et de la situation qui a dû se produire dans le théâtre prodigieux qui s'est ouvert dans l'âme humaine unie à Dieu le Fils face à Dieu le Père. Un théâtre prodigieux où s'est réalisé le plus grand combat qui puisse jamais se réaliser, même sur la terre. Même sur la terre. Alors, le texte montre que Jésus, après que Satan soit rentré dans Judas, va pendant 3 heures, donc 18 heures à l'Eucharistie, 19 heures, il commence à parler, à dire chapitre 13, 14, 15, 16, 17 de l'évangile de Saint Jean, à quel point il est dedans, à la vie intérieure, corps, sang, âme, esprit, de ses disciples par la grâce eucharistique, par le pouvoir eucharistique, comme il est dedans eux, comme le Père est dans lui, comme lui est dans le Père, comme lui-même Jésus est dans sa propre personne. Et il exprime tout ça et puis il explique les choses de manière très très claire avec les paroles, le ton et la grâce de lumière qui correspondent, de sorte que les apôtres disent, ça y est, maintenant on a tout compris. Ah ben maintenant on comprend. Ah ben maintenant c'est tout, au moins c'est clair. Ah ben d'accord, mais maintenant avec en plus une force incroyable. Et du coup, et ça dure 3 heures tout ça, et puis ils sont prêts donc à le suivre. C'est très frappant, effectivement, ils sont prêts à le suivre, ils sont éperdus, ils vont donner leur vie, je te renierai jamais, je vais mourir, etc. Et 10 minutes après, les 3 dernières heures, c'est Gethsémani, toc, situation absolument qui se renverse d'un seul coup. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? D'un seul coup, Jésus les amène à Gethsémani. Il les laisse là, la lune est pleine parce que c'est proche de la Pâque. sa danse, et il va à Gethsemane, dans le jardin des oliviers. Il descend, il sort de Jérusalem, il descend dans la vallée, parce que c'est assez à pic, hein. On descend jusqu'au torrent du Cédron, puis on remonte vers la petite colline où il y a le jardin des oliviers. Et si on montait un peu plus haut, on irait vers Béthanie, là où il y avait la maison de Lazare. Et là, il y a des grottes et tout. Et la tradition dit que dans ces grottes de Gethsemane, dans ces grottes du jardin des oliviers, Adam avait été venu se réfugier dans ce trou-là, dans le trou de ces grottes, pour pleurer son péché. David aussi. Ça me plaît beaucoup, ça. C'est les pères de Jésus. Ils sont venus là, David. Et je pense très fortement que Joseph, son papa aussi, Joseph le papa, à chaque fois qu'il a été à Jérusalem pour la Pâque, il est allé pleurer là. Il a eu son Gethsemane chaque fois. C'est ça que dit la tradition, que David est venu pleurer dans cette grotte pour le péché de son peuple, pour son propre péché. Et Joseph, le papa de Jésus, le lieu même de celui qui a ajusté à la première personne de la très sainte Trinité, est venu. Combien de fois, je ne le sais pas, mais en tout cas, il est venu dans ces grottes, ça j'en suis sûr, de Gethsemane, et il a agonisé. Il en est mort. Joseph est mort de cette agonie-là. Faut jamais oublier ça, puisque c'est comme ça que commencent les mystères lumineux. Et Jésus vient là. Donc quelque part, je mets ici entre parenthèses la présence de Joseph, qui est exprimée aussi par un autre aspect. C'est le fait que Gethsemane, ça veut dire le pressoir à huile. C'est Gat, Shemen. Gat, c'est la cuve, la cave à vin, la cuve, truc qu'on creuse dans le sol en dessous pour conserver le vin, mais c'est aussi le pressoir au raisin. Ça, c'est Gat. Et Shemen, c'est pour l'huile, donc c'est le pressoir au raisin. Mais qui fait, c'est extraordinaire d'ailleurs, c'est le pressoir au raisin, c'est le vin qui va donner de l'huile, quoi. C'est fou, quoi. C'est le vin qui donne de l'huile, c'est ça, Gethsemane, c'est ça. On passe de Gat, la cuve à rien. Et la cuve est dans la terre. Et il vient de donner la coupe de l'Eucharistie. Ah, voilà. Donc, vous voyez, il y a une autre indication sur Saint-Joseph. Pourquoi ? Parce que nous savons très très bien que la coupe dans la liturgie juive, c'est le symbole et c'est la présence de la paternité. C'est le père de famille qui donne la coupe à la fin du repas de la Pâque. La coupe, toujours. La coupe, c'est toujours lié au père. C'est toujours le Père. Et c'est à la fin du repas. Donc il y a eu l'Eucharistie, mais il y a eu la coupe aussi. Et là, il se trouve que Joseph, il est maintenant dans la terre, dans le lieu de la mort. Il est dans le lieu de la mort. Et là, la coupe de Joseph, c'est la cuve de vin, et qui se transforme en huile grasse. C'est Gethsemane, ça. Vous voyez, une autre indication pour montrer, pour pointer, qu'il y a la paternité de Jésus qui est présente dans son agonie, là. Je mets ça juste à titre comme ça, de mémoire. C'est à force de poser les éléments, que petit à petit, on va sentir la chose étonnante de Gethsemane. Et aussitôt qu'il arrive là, alors à ce moment-là, il prend trois disciples, il les met un petit peu au-dessus là. Il s'arrache d'eux, alors le mot est très fort, apospao en grec, c'est déchiré, quoi. C'est un mot qu'on emploie quand on déchire, quand on arrache un enfant des entrailles de sa mère. Ouais, vous voyez ça ? S'arracher un embryon comme ça, à pleine main, et il faut l'arracher du ventre. C'est ce mot-là, quoi. Il s'arrache à ses disciples, à ces trois qui sont là, Pierre, Jacques et Jean. à un jet de pierre environ. Un jet de pierre, c'est-à-dire une distance d'environ 20 mètres. D'environ 20 mètres. Je ne sais pas exactement comment on fait un jet de pierre. Et ce mot, j'ai regardé justement dans la Bible, ce mot jet se trouve une fois dans la Torah, dans le livre de la Genèse. Chapitre 21, verset 4, je crois. Et dans le passage, le fameux passage qu'ont repéré les pères de l'Église pour désigner la prophétie de la maternité divine de Marie. C'est quand Agar est parti dans le désert avec son fils jeté comme apostat. Au bout d'un certain temps, avec juste du pain et de quoi boire, au bout d'un certain temps, il se trouve dans le désert, l'enfant meurt de soif. Alors elle se met à un jet de pierre parce qu'elle ne veut pas voir son enfant dans la tourmente. Alors elle se met à un jet de pierre. C'est cette expression-là qui a pour jet de ses manies. Jésus s'arrache de ses trois disciples. Là, il faudrait voir la connexion très très forte avec le mystère de la transfiguration, où on voit ce qui se cache derrière ces trois disciples. Hein, bon, il faut s'en rappeler, bien sûr. Et il y a ce lien très fort avec celle qui il s'arrache lui-même, c'est pas Marie qui s'arrache, c'est lui qui s'arrache à un jet de pierre pour que Marie ne soit pas associée. Tout s'est fait avec Marie, et là Jésus ne veut pas que Marie soit tentée par le démon de cette tentation-là. C'est-à-dire pour ça que j'ai le sentiment, moi, mais ce n'est pas dogmatique ce que je dis, hein. Pas défini par un père de l'Église ou un docteur de l'Église, mais c'est une tradition, c'est vrai. Je dis que Marie n'a pas communié à l'Eucharistie de la scène du jeudi saint. Il y a une distance qui s'est établie. Et voilà pourquoi ces trois disciples, Marie est restée à Jérusalem. Et il y a la descente jusqu'au Cédron et la remontée jusqu'à Gethsémani. Et il y a la vallée de torrents de larmes qui les sépare. Et Marie est dans la cité de la Jérusalem. Et elle demeure Immaculée Conception. Elle sera préservée. Jésus ne peut pas accepter que le démon puisse avoir prise sur l'Immaculée Conception. Et d'ailleurs, il a compris qu'il était Dieu. Il a compris qu'elle était la Vierge perpétuelle. Il a compris qu'elle était pleine de grâce. Le démon. Il a compris l'Eucharistie. Il a compris les apôtres, le corps mystique. Il a compris qu'il était Dieu. Mais il n'a pas compris l'Immaculée Conception. C'est la seule chose que Satan n'ait pas compris. Quand Judas a communiqué. Ça donne la mesure ce que c'est que les communions sacrilèges entre nous, soit dit. Hein. Si les gens savaient, je vous assure que une communion sacrilège, ça vaut plusieurs éternités de l'enfer. Hein. Une seule communion sacrilège, c'est effrayant, quoi. Si on savait, ce serait fou. Mais ça, peu importe, c'est autre chose. Un jet de pierre, elle est à Jérusalem, elle est à Jérusalem spirituelle, et lui est à Gethsémani. Ça c'est beau aussi, hein, de noter ça. De noter qu'elle est à un jet de pierre, et par trois fois il va prier. Et il va être, il va se mettre contre ce rocher, dans ce trou de ce rocher, et il va se prosterner. Alors, ce mot prosterné, comme toujours, peut se traduire autrement. Il est employé dans deux traductions. On peut le traduire prosterné, on peut le traduire en quand un corps se prosterne, il se jette par terre et il tombe par terre. Et c'est ça, prosterné. Bon, mais la deuxième traduction, c'est quand un corps est tellement disloqué qu'il se démembre en tombant flasque sur le sol. C'est une dislocation et une, par démembrement. Exactement du dictionnaire, c'est ça. C'est un démembrement, une dislocation d'un corps par délabrement intérieur. Par trois fois. Et il commence à prier. Et les mots de Saint Matthieu, de Saint Marc et de Saint Luc sont des cris d'épouvante. Angoisse. Larmes. Tourmente. Et puis, des sueurs de sang. Et en fait, c'est pas vrai. Dans Saint Luc, qui est médecin, note que ce sont des caillots de sang qui sortent de tout le corps de Jésus. Des caillots. Vous voyez ce que c'est des caillots? Des caillots de sang. Ça, je trouve ça très... C'est très... C'est Saint-Luc, il est... Vous savez, heureusement qu'il y a Saint-Luc. Hein. Ah ben, heureusement qu'il y a les autres aussi. Tout le monde, Mais les caillots, des caillots. Alors, des caillots. En grec, si vous voulez savoir, c'est facile. Des thrombos, en plus. Hein. Des trombes de sang. Des thrombos. Le thrombos, ça veut dire des caillots de sang séché. Qui tombent, comme dit Saint Jérôme, en traduisant ce texte, dans la Vulgate, in terram, à l'intérieur de la terre. Je trouve qu'on n'aurait jamais dû inventer la langue française. On aurait dû garder ces langues extraordinaires, sacrées, quoi. Et Jésus qui pleure, et qui crie vers le Père en disant « Père, que cette, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi. » Ah, cette coupe, c'est quoi cette coupe toujours? On va revenir hein, à chaque fois. Et alors, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de ces 3 heures de force eucharistique à ces 3 heures de dislocation? C'est vraiment, vous savez que ce que disent les médecins, c'est que quand quelqu'un a une angoisse tellement forte, il y a une dislocation intérieur des vaisseaux sanguins et qui produisent ces sueurs de sang. Mais là, c'était bien plus que ça, puisque c'est des caillots de sang. Donc c'est ça à la puissance. Donc c'est vraiment, on est passé de l'unité eucharistique à une dislocation du corps mystique de Jésus, du corps vivant de Jésus. Une dislocation. Le contraire de l'unité, quoi, en fait, dans une souffrance. Il explose, littéralement. Mais comme il ne peut pas mourir parce qu'il est Dieu, le démon le sait, désormais. Et donc, de cette dislocation, il ne meurt pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi, je crois que si on suit la leçon de l'évangile de Saint Jean, où on voit que pratiquement, il note que pratiquement tout s'est axé sur Judas, quelque part, du point de vue du fait qu'il était livré à la tourmente. Il dit simplement que c'est au bout de 3 heures après sa communion que Judas a conclu le pacte avec le peuple de Dieu pour livrer Jésus à la tourmente. Alors à partir du moment où Satan, où il a donné son consentement et son acte avec sa complaisance, alors il y a eu alliance de Satan avec un membre vivant du corps mystique, vivant, Jésus vivant, jusqu'à la substance eucharistique, alors à ce moment-là, Satan avait tout pouvoir pour aller sur le corps de Jésus et sur tous les membres du corps mystique vivant de Jésus vivant. Et Jésus, à ce moment-là, a souffert parce qu'il savait que Marie faisait partie de son corps mystique. Alors il a dit ça au Père, cette coupe-là, si on peut l'éviter. Il voulait être seul à souffrir. Seul. Mais heureusement que Satan ne connaissait pas le mystère de l'Immaculée Conception. Heureusement que Jésus a fait passer l'Église devant pour que Marie puisse être corps rédemptrice du monde. Et qu'ainsi, ce soit l'Eucharistie soit donnée vraiment à Marie et soit instituée pour que la corrédemption de l'Église puisse aller jusqu'au jugement dernier. Jusqu'à la miséricorde finale et terminale. Là, il y a quelque chose à saisir de très fort, je crois, de très important dans le mystère de la Passion et de la rédemption de Jésus. C'est que du coup, effectivement, et Jésus va vraiment prendre vouloir et il prendra sur lui tout jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine de l'Immaculée Conception pour la préserver. Jusqu'à la blessure du cœur. Jusqu'à tout ce qui peut être sacrilège par rapport à son propre corps où Dieu vivant est présent dans son corps vivant. Ou même quelque chose qui va aller jusqu'à la blessure mortel de sa divinité. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les blessures que l'humanité de Jésus va ressentir, éprouver, ne sont à rien, quelque part, à côté de la blessure qui va lui être faite dans son corps une fois qu'il ne ressentira plus rien dans son âme, puisque son âme sera morte. Et séparé de son corps. Donc quand on va lui donner la blessure mortelle, comme avait dit Dieu le Père à Sainte Catherine de Sienne, là c'est autre chose, c'est Dieu le Fils qui est atteint. C'est le Dieu vivant qui est atteint dans le corps cadavérique de Jésus. Il va accepter jusque-là. Il va tout accepter. Quand dans son humanité, son intelligence, son affectivité humaine, il va accepter d'être confronté à cette souffrance de qui atteindra jusqu'à sa divinité. Voilà pourquoi Pascal dit l'agonie de Jésus dure jusqu'à la fin du monde. Au-delà de la résurrection. C'est à cause de ça. Alors du coup, ça, c'est insupportable pour la puissance la capacité de résistance humaine, même portée par la toute-puissance de Dieu. Parce que la nature humaine, elle a un capital de vie qui est limité, même s'il est absolument parfait. Alors, ils se disent que, il y a une, quand on dit frayeur, tourmente, angoisse. Et cette association de mots se trouve une fois. Je l'ai trouvée dans le livre de Job. Et je vais vous le lire, parce que ce livre de Job, chapitre 4, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, un esprit déchu, un esprit mauvais. Tous mes cheveux se hérissèrent. Vous voyez ce que c'est, les cheveux qui se hérissent? Ça m'impressionne beaucoup, parce que quand Jésus était comme ça, tout épouvanté, disloqué, et en même temps ses cheveux qui se hérissent comme un hérisson, vous voyez? Tous ses cheveux, il avait les cheveux relativement longs et en même temps tout collé par le caillot de sang et la transpiration. Et l'épouvante de Jésus qui a duré 3 heures, c'est affolant. Alors qu'il est dans la vision béatifique, alors qu'il est dans la vision béatifique. Parce que normalement, la vision béatifique, par exemple, en ce moment, au ciel, la Sainte Vierge est dans la vision béatifique. Saint François d'Assise est dans la vision béatifique. Donc, vous rendez compte, la puissance de la vision béatifique sur une âme humaine, ça fait paraître tout, ça fait disparaître tout, ça console tout, ça fortifie tout. Jésus est dans la vision béatifique et malgré tout, il est comme ça. Les cheveux se hérissent. C'est fou, quoi. Ça montre quand même que le combat est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Même de tout ce que le démon même peut imaginer. Le démon lui-même ne pouvait pas concevoir une tentation pareille. C'est vrai, Dieu le Père a ici une place. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, d'un aspect inconnu. Et j'entendis une voix qui murmurait. Doucement, l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a créé? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie, même chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons de chair et de sang et d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et personne n'y prendra jamais plus garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse. Crie maintenant, personne ne te répondra. À quel saint t'adresseras-tu? Alors Jésus va voir les disciples, il se lève en titubant, et il voit qu'ils dorment. Et il leur dit, je vous en supplie, aidez-moi, priez, aidez-moi. Ça, c'est très très frappant, ça. C'est Pascal aussi, hein, dans Pascal, le janséniste, mais c'est un saint, hein, c'est pas seulement, c'est pas un hérétique, Pascal, qui dit, mais c'est la seule fois où Jésus demande de l'aide. Le seul moment où il demande de l'aide à des hommes, à des créatures. Il dit, mais aidez-moi, tu dors, mais veillez, priez. Alors les apôtres, qui quelques minutes avant sentaient fort comme tout, ça c'est formidable, et c'est ça que je trouve éclairant dans le message de Gethsémani, en tout cas, c'est que c'est ce dialogue entre ces trois et Jésus. Un jet de pierre, tout est là. La cuve de vin se changeant en huile, en cuve d'huile. Là, ici, c'est très, très éclairant, ça. Enfin, c'est des paroles, il y a quatre mots en grec, hein, pour expliquer ces quatre choses que je viens de vous expliquer, là, qui montrent tout le contexte dans lequel je dois m'inscrire pour revivre ce que Jésus a vécu. Et les apôtres aussi, et Marie à distance. Et Joseph dans les lieux de la mort. Ils sont tous présents, hein. Directement, on peut dire. Et les apôtres, ils disent, attends, on a quitté tout, quitté pour le suivre, on a femme, maison, enfant, on est prêt à tout, persécution, tout ça, mais enfin, au moins, parce que Jésus nous donnera toujours la force, d'ailleurs, il vient de leur dire, enfin, est-ce que vous avez déjà, une demi-heure avant, il vient de leur dire, mais est-ce que je vous ai déjà laissé dans la détresse, sans vous réconforter, sans vous aider, sans vous donner tout? Il dit, non, c'est vrai, Seigneur, tout nous a toujours. Et là, maintenant, ils pensaient quand même que Jésus serait toujours là, quoi, pour les aider. Et là, c'est eux qui doivent l'aider, alors qu'ils sont dans un état lamentable aussi, en même temps. Moins que lui, mais beaucoup moins que lui. Fatigué, apesanti. Et en plus, il faut qu'on l'aide. Et dans cet état dans lequel
Ils ont été désemparés.
Voir Jésus comme ça, c'est effrayant. Il y avait encore, bien sûr, il y avait encore, bien sûr, sa voix. On le reconnaissait à sa voix, Jésus, ça, j'en suis sûr. Sa présence et à une certaine... lumière diaphane qui émanait de son visage. Mais sinon, comme dit le chapitre d'Isaïe, au chapitre 53, il n'avait même plus à cet instant-là d'apparence humaine tellement il était ravagé. On aurait même dit que ce n'était pas un homme tellement il était ravagé. Mais il y avait encore cette lumière. Et si, mais aidez-moi, je vous en supplie alors. Et puis il va reprier. Et puis une deuxième fois, il les voit, cette fois-ci, ils sont encore un petit peu endormis. La troisième fois, ils le sont moins, ils se reposent. Ils se reposent, comme dit Saint-Luc. Saint-Luc dit, ils se reposent. Il se dit, d'abord, ben maintenant c'est fini, maintenant c'est fini. Vous vous reposez, ben, ne vous reposez plus. Il approche, celui qui me livre à la tourmente. C'est pas, le mot reposer peut se traduire bien sûr encore autrement, c'est ne pas s'intéresser à son propre salut. C'est le même mot. Celui qui se repose, qui ne prie pas avec Jésus dans l'angoisse, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à son propre salut. Celui qui ne veille pas et ne prie pas. Vous voyez, déjà, il suffit qu'il soit dans une chapelle pour dormir. c'est terrible, hein, c'est affreux, hein, ça veut dire... Leur salut est fait, quoi. Ils n'ont pas besoin du salut. Ah non, bien sûr que non. Enfin, bien sûr que non. Je dis, ah non, non, non. Il approche celui qui me livre à la tourmente. Levez-vous. Et là, cette fois-ci, il est redevenu calme. Il est redevenu pacifique. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et Saint-Luc dit, oui, un ange ap uranos, c'est-à-dire du fond et très profond des hauteurs du ciel, est venu vers lui pour le rendre fort. Et vous voyez, là, ici, on sent, derrière cette parole-là, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est vrai que c'est que les apôtres ont fait un tout petit effort. Ça prouve que les apôtres ont fait un tout petit effort. De compassion, de communion, de supplication, que sais-je, même pour le ramener tout titubant à un jet de pierre de là, pour revenir à leur place, écouter ce qu'ils disaient comme prière, s'unir à lui autant qu'ils pouvaient, et grâce à ça, il y a eu, grâce à ça, puisque les apôtres sont devenus depuis l'Eucharistie les médiateurs entre Marie et Jésus, entre Jésus et Marie, ils sont devenus les prêtres, faites ceci en mémoire de moi, alors Marie de Jérusalem, a pu faire son acte de foi qui fait le fond du mystère marial de l'agonie de Jésus à Gethsémani. Elle fait un nouvel acte de foi pour accepter cet arrachement, pour accepter cette déchirure. Son fils est arraché du ventre. C'est ce que disait Sarah dans le fameux passage du jet de pierre, chapitre 24, dit « Mon tout petit bébé, je ne veux pas l'entendre. Mon tout petit bébé. » Et en fait, c'est Jésus qui dit « Mon tout petit bébé ». Son tout petit bébé, c'est Marie. Il est confronté à l'heure de la rédemption. Et son bébé à lui, c'est l'Immaculée Conception. « Je ne veux pas entendre. » Et il la place... Et Marie comprend que elle ne doit pas mourir avec Jésus. Elle doit croire, elle doit livrer son fils à la tourmente comme Judas a livré le Fils de Dieu à la tourmente. Elle doit croire qu'elle doit elle-même faire ce que Judas fait en le faisant par la foi. Par l'amour de la volonté de Dieu le Père. Et elle le fait en communion avec le Père de Jésus, qui est dans la mort, Et voilà pourquoi la tradition dit que la coupe est présentée à Jésus par l'ange comme une force. Si Jésus avait été tout seul, pour subir la tentation de Gethsémani, il serait tombé. Ça dépassait les forces du Messie. Et ça, c'est très fort de comprendre ça. Voilà pourquoi Jésus a besoin de l'aide de l'Église. Et sans l'aide de l'Église, sans l'aide d'une foi qui va encore plus loin en Marie, pour souffrir avec lui, dans la co-rédemption du monde, il ne le peut pas résister à la tentation de Gethsémani. C'est impossible. C'est pour ça que c'est le seul moment où Jésus demande de l'aide. Ici, il ne souffre aucune souffrance de la part des hommes. Il souffre une souffrance qu'il s'inflige lui-même en tant qu'il est Dieu. C'est son amour qui ne veut pas. Qui ne peut pas. Alors, il y a cette aide qui est apportée. L'acte de foi de Marie fait venir du ciel l'ange. Et cette fois-ci, c'est l'ange qui va permettre à Jésus d'incarner son oui à nouveau. Que ta volonté se fasse et pas la mienne. Et cette fois-ci, il l'inscrit du dedans d'une foi de Marie qui lui est apportée par la médiation et des apôtres et du monde angélique. Et du fond du ciel, ce qui montre bien qu'il y a un arrachement qui s'est fait et qui a été permis par Dieu. C'est très fort. Alors évidemment, il faut fixer dans ce mystère les yeux de notre cœur sur le fond de ce mystère pour le vivre, pour le revivre. Faire que, comme membre vivant de Jésus vivant, que le Dieu vivant en nous et Jésus vivant en nous, puisque nous sommes les membres vivants du Christ, revivre en nous ce mystère par la foi, par le rosaire, et que Marie va engendre en nous, pousse en nous cette force de vivre ce mystère avec Jésus, et dire oui à la volonté de Dieu le Père, à travers tout. Le fruit de ce mystère, c'est un état de tourmente absolue dès qu'il s'agit de la moindre chose qui est contraire à l'amour. Dès qu'il s'agit de la moindre chose qui est contraire à l'amour, à la volonté de Dieu le Père, quelque chose qui est tout à fait quelque chose de la moindre chose qui soit contraire à la volonté de Dieu le Père, la moindre, ça nous met dans un état de tourmente, d'agonie, de mort, de dégoût total, substantiel, absolu. Voilà le fruit du mystère. Le fruit du mystère, ce n'est pas la haine du péché, c'est plus que ça, quoi. C'est la complicité absolue avec la volonté de Dieu le Père. Complicité, une assimilation totale. Rejoindre Saint-Joseph dans le fond des enfers. Et Dieu le Père à travers lui. Et du coup, il n'y a plus, mais alors plus aucune complicité avec. Alors à partir de là, on peut contempler. Voilà ce que donc dit la Bible sur la révélation à Gethsémani. Ce qui est quand même déjà très fort. Il faut bien le reconnaître, hein. C'est quand même assez. C'est quand même grand, hein, ce qui est caché derrière tout ça. Comme la dernière fois, on avait regardé les lettres à chaque fois. Hein, on fait pour Cana, on a fait ça pour d'abord, je crois, on a fait ça pour. Alors, Gethsémani, oui. Faisons ça avec les lettres juives, parce que ça donne aussi une indication. Quelquefois, c'est plus facile de contempler le mystère grâce à la révélation des lettres données par Jésus sur la pierre, sur le Sinaï, à Moïse. Donc, Gethsémani, ça s'écrit avec un G, si vous préférez un guimel, un Tav ou un T, si vous voudriez, un Shin, Meim, Nun. G, T, S, M, N. Gethsémani. Alors, qu'est-ce que Moïse a dit, l'ayant entendu lui-même du Messie, d'après la tradition rabbinique, sur la signification de ces lettres? Elles vont nous donner quelque chose de très précis. Et c'est assez facile à faire, à force, cette gymnastique de la révélation va nous devenir très familière, parce qu'en fait elle est simple, elle permet aux enfants de comprendre. Le guimel, c'est la troisième lettre de l'alphabet, qui signifie la force, l'amour dans toute sa force. Le guimel, c'est l'amour dans toute sa force. C'est vraiment... Même que tu es entouré d'une absence totale d'amour, c'est un chameau, à travers le désert, absence totale d'eau, il peut traverser le désert, il est toujours là. Il continue, traverse le désert. C'est le chameau, quoi. C'est le contraire de l'orgueil, quoi. Ces chameaux, vous avez déjà vu des chameaux en Afrique, je sais pas, mais ils sont extraordinaires, les chameaux. Quand ils s'arrêtent, ils se mettent à genoux. C'est extraordinaire, les chameaux. On peut pas ne pas voir s'ils se mettent à genoux, quoi. Ils se mettent à genoux. Et puis, ils baissent la tête. Puis, ils mettent dessus, alors. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment... Ils ont des ressources d'amour, ils traversent tous les déserts. Guimel, la force, c'est vraiment la force, l'amour dans toute sa force. Le Aleph, c'est vraiment l'adoration, le silence, l'admiration devant Dieu. Qui Beit, deuxième lettre de l'alphabet, c'est vraiment l'amour incarné, quoi, dans l'homme et la femme, dans la clôture intime de l'homme et la femme pour vivre à l'infini. Cet amour dans l'image, ressemblance de Dieu. Mais alors du coup, vivre des deux, de l'amour de Dieu et de l'amour, c'est l'amour dans toute sa force, c'est guimel, c'est la troisième lettre. C'est l'amour dans toute sa force. Donc le script en écriture rabbinique, ça s'écrit comme ça, ça s'écrit avec une espèce de verticale, comme ça, si je puis dire, légèrement arrondi, voilà. Et un petit crochet vers le bas, ce qui veut dire l'amour dans toute sa force, pénètre jusqu'au fond du ciel et jusqu'au fond des enfers, jusqu'au fond de la terre. C'est ça, l'amour dans toute sa force atteint du fond des enfers jusqu'au fond du ciel, de Saint Joseph jusqu'à Dieu le Père. Gethsémani. Il fait ce lien, quoi, entre le fond de la mort et le fond de la vie éternelle. Et puis, comment ça se fait? C'est l'amour. Ah oui, mais si jamais il n'y a pas d'amour, alors à ce moment-là, s'il n'y a ni adoration, ni amour du prochain, l'homme et de la femme, ni Aleph, ni Bet, à ce moment-là, ce guimel se transforme en symbole de l'orgueil. C'est-à-dire que je me dresse contre Dieu et je m'accroche à l'enfer. Je m'accroche à la terre. Je m'accroche à l'enfer pour me dresser contre Dieu. C'est beau, les explications de rabbinique de Moïse. C'est Jésus qui avait expliqué ça, le Messie qui avait expliqué ça à Moïse il y a 3700 ans. Hein, bon. Alors le Tav, oui, alors cette force de l'amour, Jésus au fond, il se trouve confronté à ces deux formes du guimel. Et c'est ce qui va faire sa croix, précisément. Et oui, et parce que dans son corps mystique, il va y avoir celui qui se dresse contre Dieu en s'accrochant au terrestre, c'est Judas et le démon. Dans son propre corps, eucharistique. Et vous comprenez bien que le démon, il a dit, attends, il faut que tu renonces à ton corps eucharistique, au moins ça, pour respecter Dieu. Tu peux obtenir la même chose sans briser ton corps divin et ta divinité incréée quand même. Dans le Tav, Gethsémani, le Tav, c'est quelque chose, c'est la croix. C'est la dernière lettre de l'alphabet, Jésus avait dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mais en araméen, c'est je suis l'aleph et le taf. Je suis la première et la dernière lettre de l'alphabet. Je suis l'alpha, c'est-à-dire le créateur. Enfin, et puis le taf, le signe. Et donc, toute la force de l'amour, elle va s'inscrire dans le taf, c'est-à-dire dans la croix.